14h passées de quelques minutes sur Canal Sud, l'heure de retrouver, comme tous les vendredis, une heure de cinéma avec Cinématok.
Tell me what you do. Tick, 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 tock.
Tout de suite avec aujourd'hui pratiquement une heure consacrée à la troisième édition de Ciné Palestine, le festival de cinéma palestinien de Toulouse et sa région qui se tiendra du 20 février au 1er mars avec mon invité Samir Arabi. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc passer une heure pour parler de ce festival, un festival qui cette année va mettre en lumière le talent des femmes avec donc de nombreuses réalisatrices invitées. Et ça commence dès l'ouverture puisque sera projeté le film de Najwa Najjar, Les yeux d'un voleur. Il y a aussi une invitée d'honneur qui n'est pas la moindre des invitées puisque c'est Yama Bass qui sera présente vendredi prochain. Yama Bass, comédienne, réalisatrice, écrivaine, qui présentera deux de ses films, mais aussi un film dans lequel elle joue La Porte du Soleil de Yousri Nasrallah, qui ça se passera à la Cinémathèque. Encore film de femme avec 3000 nuits, un film de Mei Masri qui lui fera une tournée, on peut dire, hein, presque une tournée dans les salles de la région.
Tout à fait. On
y reviendra. Et puis, d'une façon générale, le jeune cinéma sera présent et bien présent puisqu'on va pouvoir découvrir des premiers longs métrages, des courts métrages, des films d'animation, du documentaire, un festival qui accompagne ces films de rencontres, aussi de débats. Et puis donc qui complète votre démarche d'ouverture à la culture palestinienne. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, me raconter un petit peu l'origine de ce festival qui en est donc à sa troisième édition ?
D'abord, si vous permettez, je vais juste rectifier deux petites choses.
Bien sûr.
On ne se donne pas l'appellation festival parce qu'on n'a pas de prix. C'est juste un événement cinématographique autour de Ciné Palestine.
D'accord.
Maintenant, d'où on vient ? Ça remonte, à vrai dire, à 2008, lorsqu'on a fondé la compagnie ici, là-bas et ailleurs, avec le désir de faire découvrir la culture arabe et en particulier la culture palestinienne et la poésie palestinienne de Mahmoud Darwish. Donc, j'ai fait beaucoup de lectures de ces textes. Et on a rendu hommage à Darwish en 2012. On a fait un grand événement qui était une réussite, qui nous a impressionnés. C'était une sorte d'aventure. Et puis, l'aventure a très bien tourné. Le public était là, au rendez-vous.
En attente, quelque part. Il attendait.
Voilà. Et puis, on s'est dit, bon, pourquoi pas le cinéma ? Donc, l'aventure cinéma a débuté, Ciné Palestine, la première édition, en 2014. Et là aussi, on s'est lancé dans cette expérience, en disant, mais comment ça va se passer ? Est-ce qu'il y a un public ? Parce que l'ambition aussi, on diffuse des films palestiniens par-ci, par-là. Il y a beaucoup d'événements où on mélange le cinéma palestinien avec d'autres cinémas de la région. Et là, le défi, c'est de dire, sommes-nous capables de monter un événement autour du cinéma palestinien 100% palestinien. Donc, un défi qui n'était pas évident du tout lorsqu'on s'est lancé là-dedans. Donc, on s'est lancé là-dedans et puis on a réussi en 2014. On était content, le public était là, les films étaient de qualité, on a fait découvrir, parce que peut-être on parlera de ça tout à l'heure, le film palestinien, c'est une sorte de perle rare qu'il faut aller chercher, Et la recherche, il ne s'agit pas d'un simple appel téléphonique à Paris ou à Marseille. Parfois, il faut contacter les cinéastes et vraiment passer des semaines pour espérer avoir la copie du film. Et parfois, avec d'autres problèmes aussi qui se présentent. Donc, c'est chercher la perle rare. Est une démarche difficile. On l'a fait en 2014. On était tout contents de nous. On a recommencé en 2015. Et puis, on continue parce qu'on a réalisé que le ciné-Palestine a sa place à Toulouse et dans la région, dans la configuration par rapport à d'autres événements qui tournent autour du cinéma, que ce soit Ciné Latino, Ciné Italia, etc., etc. Donc voilà un petit peu notre démarche qui remonte à 2012, d'abord avec Darwish, et ensuite c'est la troisième édition de Ciné Palestine.
Et vous avez choisi ces thématiques, alors bon, par la force des choses, parce que par exemple les femmes sont extrêmement présentes dans le cinéma palestinien.
Voilà, exact. Ouais. C'est le cas, si vous voulez. A priori, lorsqu'on commence à travailler, parce que ça fait un an qu'on est dans la section des films, on n'a pas choisi une parité quelconque, on n'est pas parti avec l'idée de mettre en évidence les cinéastes palestiniennes. Ça s'est fait tout seul. Je pense que les femmes palestiniennes, les cinéastes palestiniennes, par leur énergie, par leur talent, s'imposent. Donc ça se fait tout seul, donc ce n'était pas un choix. D'ailleurs, comme pour l'édition précédente, comme pour l'édition de 2014, on se rend compte chaque fois que les femmes palestiniennes sont majoritaires. Donc ce n'est pas vraiment un choix conscient, recherché, c'est une réalité qui s'impose et on est ravis de cette réalité. Oui.
Autre surprise, je dirais, pour moi en tout cas, quand je me suis penchée sur les films qui sont proposés dans cette édition, il y a beaucoup de films donc qui sont tournés sur place, même dans des territoires occupés, avec des choses assez incroyables de penser qu'on peut avoir seulement, par exemple, 2 jours d'autorisation de tournage sur des territoires occupés donc par l'État d'Israël, et que du coup on peut quand même tourner, mais il faut construire son film en sachant que sur place. Alors je sais plus pour quel film j'ai lu cette anecdote, si c'est un film qui se passe en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, mais en tout cas donc des films qui sont quand même bien in situ, avec des réalisateurs qui se battent et qui arrivent à faire sortir donc un cinéma vraiment sur place. Et donc le cinéma palestinien existe bel et bien. Il n'est pas qu'un cinéma de l'exil, même si ça, bien entendu, il communique avec aussi des allers-retours dans d'autres pays. Mais donc il y a bien un terreau, il y a bien un cinéma sur place.
Bien sûr, je pense. Vous avez évoqué de façon indirecte le chanteur de Gaza, oui, qui n'est pas dans le programme, qu'on a fait une modification dernière minute pour des raisons techniques. Oui. Donc le chanteur de Gaza remplace Mars at Sunrise. Et le chanteur de Gaza, donc Hani Abu Assad, a eu l'autorisation de tourner à Gaza 2 jours. Alors 2 jours, voilà. Pas dérisoire. Ouais. Il l'a fait quand même pour faire son film « Le chanteur de Gaza ». Alors, si vous voulez, les conditions de tournage sont extrêmement difficiles. Je peux vous citer beaucoup d'exemples, mais le Palestinien est quelqu'un d'extrêmement patient. Je vais vous citer un exemple, une amie cinéaste qu'on a invitée donc en 2014, qui a tourné un documentaire Gaza Calling, Gaza Appel. Donc c'est l'histoire d'un Gazaoui qui ne peut pas sortir de Gaza pour aller voir sa famille en Cisjordanie, et l'histoire d'un jeune homme qui veut voir sa famille à Gaza, il ne peut pas entrer. Donc, il a fallu 2 équipes de tournage, une équipe à Gaza, une équipe à Cisjordanie, et il a mis 3 ans pour sortir son film. Et une autre cinéaste déclarait, la sortie de chaque film palestinien est un miracle. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, des problèmes financiers, des problèmes pratiques, des problèmes de tournage. À titre d'exemple, le film Oumar, qu'on a présenté lors d'une édition précédente, il voulait filmer un mur. Évidemment, il ne peut pas filmer le mur, le vrai mur. Donc, il est allé ailleurs chercher un mur pour pouvoir faire son tournage. Donc, les conditions de tournage, les conditions financières, les conditions tout court sont extrêmement difficiles.
Mais il y a quand même ce désir de témoigner, de faire exister cette réalité palestinienne aux yeux du monde entier. Et du coup, quand même, on se rend compte que la majorité des films sont inspirés d'histoires vraies. Les réalisateurs racontent, j'ai rencontré cette personne, je me suis servi de cette anecdote qui m'a été racontée. Voilà, une réalité, un quotidien palestinien, bien entendu, chargé de difficultés, une série de difficultés au quotidien, mais qui nourrissent et qui donnent peut-être aussi la force d'attendre 3 ans pour pouvoir tourner l'intégralité des scènes d'un film.
Bien sûr, il y a ce désir de refléter une réalité et de faire du cinéma tout court aussi. Ouais. Moi, je me souviens, l'an dernier, on a invité en 2015, un jeune cinéaste palestinien qui a fait ses études à l'université d'Al Kalima, qui a fait des films, des courts-métrages qu'on a bien aimés. Il est venu pour les montrer aux élèves de lycée Les Arènes, les élèves du lycée des Arènes. Et donc, ces jeunes Français ont demandé à ce jeune Palestinien qu'est-ce qu'il veut finalement, qu'est-ce qu'il cherche, quelles sont ses ambitions. Il a dit tout simplement vivre. Vivre et filmer comme n'importe quel jeune homme ici. Ils le font avec beaucoup de talent, avec surtout les moyens maintenant modernes pour filmer. Et très souvent, les films, les courts-métrages, il y a un face-à-face parfois avec des soldats qui sont filmés. Après, on fait le montage, on ne sait pas une simulation quelconque.
Oui.
C'est, la réalité est filmée telle qu'elle est.
Et vous évoquiez un petit peu cette difficulté pour rencontrer ces films. Donc, ces films que vous nous proposez, vous les voyez comment? Vous allez les chercher comment? C'est tout un réseau qui se met en place. C'est des connaissances, c'est des personnes qui vous signalent que quelqu'un est en train de faire un film.
C'est un petit peu ça, oui. Si vous voulez, la première édition, c'était très difficile. Maintenant, on a développé notre réseau. On travaille avec l'Université d'Al Kalima, on travaille avec les amis cinéastes palestiniens qui sont venus avec 2014, qui nous signalent des films. Et puis, donc, à partir de là, ça nous permet de les regarder, voir, de sélectionner certains. Voilà. Donc, c'est un travail de patience. Il faut prendre le temps. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces films, on ne les trouve pas dans le circuit de distribution classique. Donc, il faut des appels téléphoniques en Palestine, beaucoup d'emails, beaucoup de messages pour pouvoir les voir et pour pouvoir les programmer. Et là, par exemple, aujourd'hui, là au moment où je vous parle, j'attends que DHL livre un film pour la semaine prochaine.
D'accord. Voilà.
Bon. Il va arriver dernière minute, donc il n'est pas
on
rare.
Croise le doigt.
Voilà, donc il est possible
c'est
que je rentre chez
là.
Moi.
Ouais.
Pour prendre la copie et courir vers la salle en disant « je l'ai ».
Je l'ai. Bon, alors justement, on va le parcourir, même si on ne pourra pas parler de tous les films. Mais bon, bah, déjà, on va commencer par le début alors, c'est des rencontres, on va dire, Ciné-Palestine, lundi 20 février. Alors, il y aura un lancement à l'espace des diversités en compagnie donc du président d'honneur Guy Chapoulier, qui est aussi donc le fondateur de l'ESSAV, avec la projection à 18h30 d'un film de Nora Al-Sharif à l'espace des diversités de la laïcité. Et puis à 20h30, à l'ABC, une fiction également de Najwa Jamar, un film donc de 2014, Les yeux d'un voleur. Et je ne sais pas s'il a fait l'objet d'une coproduction avec Arte, mais il a été diffusé sur Arte.
Oui,
et je voulais juste vous faire entendre bien ce qu'en dit quand même Olivier Père. On écoute à propos de ce film.
Voici 3 raisons de voir, maintenant, Les yeux d'un voleur, réalisé en 2014 par Najwa Najjar. D'abord, regardez comment la fiction peut s'ancrer dans une réalité dramatique. Le point de départ de l'histoire s'inspire de faits réels, les meurtres de 7 soldats et de 3 colons israéliens par un maçon palestinien. Découvrez le cinéma de Najwa Najjar, l'une des rares femmes réalisatrices à vivre en Palestine. également auteure de documentaires, elle continue ici à explorer son sujet de prédilection, le conflit israélo-palestinien. Enfin, sachez que Les yeux d'un voleur a déclenché de nombreuses polémiques lors de sa présentation, aussi bien chez les Israéliens que chez les Palestiniens. Certains ont dénoncé la glorification d'un meurtrier, tandis que d'autres ont critiqué le comportement d'une femme qui s'émancipe. À vous de juger, sans plus tarder.
Alors moi, j'ai bien aimé cette présentation parce que tout de suite, on voit qu'on n'est pas simplement dans une... On pourrait imaginer que toute l'énergie du cinéma palestinien est pour dénoncer, bien entendu, quelque chose qui doit être dénoncé, une situation d'occupation. Mais il y a d'autres choses qui sont en jeu dans le cinéma, puisque c'est donc, le regard d'un réalisateur, d'une réalisatrice sur son monde. Et bon, voilà, là, on sent, juste dans ce que évoque Olivier Père, qu'il y a aussi des questions d'émancipation du rapport de la femme dans une société arabe, de beaucoup de choses qui peuvent faire débat. Vous avez invité, je ne dis pas de bêtises, elle sera présente, la réalisatrice, il me semble. Attendez, oui. Elle sera présente à l'espace, à l'ABC.
Vous parlez de Najwa Najjar.
Oui, oui.
Non, malheureusement, elle n'a pas pu répondre positivement à notre invitation.
Oui. Et du coup, l'ouverture avec deux films de femmes, bon voilà, comme ça on est de plein pied dans la thématique. Et c'est des films qui sont inédits, je crois, à Toulouse. Hein.
Bien sûr, ouais. Oui. Le film donc Ismaël, qui est inspiré de l'histoire d'un artiste palestinien, est présenté donc pour la première fois à Toulouse. Et c'est pareil pour Les yeux d'un voleur.
Ouais.
D'ailleurs, la majorité des films sont soit inédits, soit des films en avant-première. On a trois films en avant-première. Par exemple, Ismaël, on l'a bien aimé, parce que c'est un film plein d'humour. C'est un film qui est très touchant. Et on ne l'a pas choisi parce que c'est une cinéaste. Le
Vous
film s'est imposé seul.
Ouais.
Effectivement, dans la lutte que mènent les femmes, il y a le regard sur leur propre société, un regard critique qu'on trouve aussi dans 3000 nuits.
Ouais.
Dans 3000 nuits, donc la prisonnière s'émancipe et son rapport... elle redéfinit son rapport par rapport à son mari. Donc il y a toute une émancipation qui se fait. Et puis le regard très humain, hein, on trouve par exemple dans 3000 nuits, c'est l'être humain, le rapport entre les individus qui se trouvent en prison. Ils peuvent être palestiniens, mais ils peuvent être israéliens. Et comment ce rapport va évoluer entre femmes. Donc, et ceci est traité avec une extrême finesse.
Donc, ça sera 3000 nuits, le film qui a donc passé en région. On rappellera les dates tout à l'heure. Le lendemain, le mardi 21 février, il y a des projections de courts-métrages à l'ESSAV et ça sera un rendez-vous qu'on va retrouver plusieurs fois dans la programmation, ces projections de courts-métrages. Et puis, à la CAF Poésie, vous proposez une lecture bilingue, donc... arabe et français d'un roman de Salem Al-Beik dans la salle d'attente destination Ben Gourion, et ça se passe donc à la CAF Poésie et la lecture sera assurée par Laetitia Pellé et par l'auteur lui-même, donc Salem Al-Beik. Alors voilà un moment de rencontre et d'écoute de texte en plein cœur d'un festival d'un rendez-vous autour du cinéma. Voilà, c'est ce que vous me disiez. Vous avez envie d'étendre un peu plus la proposition et de ne pas s'en tenir seulement à des propositions de films.
Tout à fait. On aime mélanger littérature, musique et cinéma. Mais peut-être que je vais vous raconter une anecdote. Lorsqu'on organisait l'événement autour de Darwish en 2012, pour rendre hommage donc, au grand poète, j'ai rencontré une jeune poétesse toulousaine qui m'a dit, parce que c'était un petit peu, en disant, vous êtes bien gentil, rendez hommage à un poète qui est mort, et nous, les vivants, là, qu'est-ce que vous nous faites de nous? Alors, ça m'a touché, et lors de la préparation de la troisième édition de Ce n'est Palestine, initialement, on a pensé lire La Porte de Soleil du grand écrivain libanais Elias Rouri. C'est un grand roman, et le film, on va le voir donc le samedi. Et après... mais revenue la phrase de cette jeune fille en disant « Vous pensez au grand et nous... » Justement, il y a un jeune romancier palestinien qui vit à Toulouse, Salim Elbeg, qui a édité son premier roman au mois de novembre. D'ailleurs, le titre a changé.
Ah oui,
maintenant, c'est
d'accord.
Devenu Deux tickets pour Asfouria, donc c'est un village près de Nazareth.
D'accord.
Donc, ça a été édité en arabe. Et puis, on a dit, on va faire un cadeau, aussi bien pour le romancier que pour le public toulousain. Bien qu'on n'ait pas des traducteurs, on s'est mis à traduire. Donc, on a traduit plusieurs chapitres de ce roman. Ça sera lu à la CAFPO. Et puis, peut-être, je dois insister aussi que Ciné-Palestine, on aimerait toucher les sujets brûlants, les sujets d'aujourd'hui, les sujets d'actualité. Et dans son roman, Salim Elbeg, il parle de la crise d'identité. Il parle de ses difficultés en tant que Palestinien de la troisième génération, de naître dans les Émirats Arabes Unis, mais il ne fait pas partie de ce pays-là. Il a vécu en Syrie, je parle de personnages,
oui.
qui s'appelle Joseph, qui a vécu en Syrie, mais vous connaissez la situation tragique en Syrie depuis 2011, donc qui s'est vu obligé de s'exiler, de partir, et il atterrit comme l'auteur, par hasard, à Toulouse. Donc, il raconte un petit peu ce voyage, cet exil difficile. Il raconte aussi sa perception du monde et cette identité déchirée et meurtrie, émiettée. Parce qu'il y a un dialogue absolument que je trouvais sublime lorsqu'ils sont à la préfecture pour donc demander le statut de réfugié. Et puis, on lui pose des questions, mais... vous avez un titre de voyage syrien, vous êtes né à Dubaï, alors vous êtes quoi ? Vous êtes qui ? Alors il dit je suis palestinien et attention, c'est un palestinien qui vit un déchirement extrême, en ce sens il n'a jamais visité la Palestine. Et dans le roman, à un moment donné, il dit mais j'ai cessé de dire en Palestine on fait comme si, comme ça, parce que je ne sais pas comment on fait en Palestine. Et j'ai commencé à dire je fais comme si, comme ça. Etc. Donc, je pense que ça va être un moment très fort, cette lecture à la CAF Poésie.
Ouais.
Et c'est un cadeau qu'on fait aux Toulousains.
Oui, en présence de l'auteur, c'est toujours des moments comme ça, ouais, particuliers. Il va y aussi y avoir des moments plus joyeux avec la projection de ce film dont vous parliez, Le Chanteur de Gaza. Alors, moi, je n'avais pas du tout entendu parler de cette histoire. Donc, j'ai découvert... ce conte de fées quand même, on peut le dire. Vous pouvez me raconter, alors le film est inspiré d'une histoire vraie, c'est un biopic. Qu'est-ce que ça raconte, Le Chanteur de Gaza ?
Alors c'est un petit gamin. Donc c'est un film signé par le grand cinéaste palestinien Hani Abou Assad qui a signé Paradise Now, qui est un grand film, qui a signé aussi Oumar. Et là donc c'est une histoire vraie d'un gamin qui rêve de devenir chanteur. Et de s'inscrire dans ces séries de programmes de télévision dans le monde arabe. Pour le titre initial, c'est The Idol, l'idole.
Ouais.
Donc, comment chanter à Gaza dans des conditions techniques difficiles, dans un territoire qui a souffert souvent, qui souffre encore. Il y a une scène d'ailleurs... assez amusante parce que c'est un groupe de gamins et puis ils essayent de transmettre les chansons qu'ils chantent à une antenne, à une radio libanaise. Il a le générateur, mais à un moment donné, le générateur ne marche plus. Donc, ils peuvent transmettre l'image. Et après, la difficulté, comment, lorsqu'on est à Gaza, sortir de Gaza pour aller ailleurs.
Faire un concours.
Donc, c'est tout un problème. Et le cinéaste disait, j'ai voulu aussi rendre aux Gazaouis leur fierté. Et puis, avec ce titre magnifique, Le Chanteur de Gaza, ça me fait penser à un autre titre. Mais cette fois-ci, c'est la littérature. Les Arabes dansent aussi de Quechua, qui est donc palestinien. Et les Arabes dansent aussi et les Arabes chantent aussi,
oui.
Malgré la douleur, malgré les difficultés, parce que l'espoir est là. Et comme disait le grand poète Mahmoud Darwish, nous sommes atteints d'une maladie incurable, l'espoir. Et je pense que ce film chante l'espoir et souligne aussi que lorsqu'on a un objectif à atteindre, on va foncer, on va surmonter toutes les difficultés parce que ça nous tient à cœur.
Ben justement, on va écouter la bande-annonce de ce film qui sera présenté à l'ABC mardi.
Il remplace Mars at Sunrise, où on a eu quelques problèmes techniques.
D'accord. Et bon, on écoute la bande-annonce.
يلا يا محمد عجل بعد خمس دقايق اعلان نتائج
بدنا ادوات موسيقيه
المصاري اللي معكم بيجيبوش وتر بسوق البالي
تفتح لمين بدك تعمل فرقه موسيقيه وتغزل في هذا الوقت والله انك مجنونه انت بتقدر تعمل اكتر من هيك
خليش حد يخليك تحس انه احلامك مش مهمة ماشي
الفرصة قدامك دلوقتي علشان تكون النجم الجديد في برنامج عرب ايدول
انا لازم اروح مصر انا لازم اطلع من هذا المكان قبل ما يخلص علي لازم نوصل صوتنا للعالم
نوزع كل التذاكر
اسألوا هان من الساعة 6
نوصل لهون على الساعة 6 من يومين
ازي من عندك
انت اول شخص جاي من غزة بتعرف
انت لما بتغني بتعطي امل لملايين الناس
محمد انت لازم تم
وهلا بدنا ننتقل لابن غزة ابن فلسطين محمد أسد
Vous êtes toujours sur Canal Sud 92.2. Nous sommes en compagnie de Samir Arabi pour parler de Ciné-Palestine. Et donc, vous, on venait d'entendre la bande-annonce du film Le Chanteur de Gaza qui sera projeté mardi 21 février. C'est à 21h à l'ABC. Tant qu'on y est, on peut dire un petit mot sur toutes ces salles puisqu'on a commencé par présenter un film à l'espace des diversités et de la laïcité. Puis après, vous allez à l'ABC, à l'American Cosmograph. Vous allez aussi au Cratère et puis à la Cinémathèque de Toulouse. Je crois qu'on a à peu près toutes les salles, disons non commerciales, enfin en dehors des gros circuits de Toulouse. Ça a été assez facile apparemment de nouer ces partenariats.
De plus en plus, ça devient facile parce qu'on a développé le partenariat. Parce que ça devient aussi un intérêt mutuel. Je veux dire, on a beaucoup de plaisir. Là, je salue l'équipe de Cosmographe avec qui on a beaucoup de plaisir à travailler. Parce qu'on parle cinéma. Ce n'est pas seulement choisir deux dates et deux jours. Ouais. C'est de voir des films, de leur proposer des films, d'entendre leurs critiques et de chercher avec eux la perle rare qu'on va partager ensemble avec le public. Donc, c'est pareil pour le Cratère. On était en partenariat lorsque Maï Mansri est venue présenter 3000 nuits lors du festival à propos d'elle. Oui. C'est pareil aussi pour l'équipe de la Cinémathèque, c'est pareil pour les salles. Donc on a des partenaires sympathiques avec qui on a beaucoup de plaisir à travailler et à faire découvrir aussi ce cinéma.
Oui, en fait, vous leur simplifiez un peu le travail, c'est-à-dire que vous faites un peu, vous avez déjà fait une sélection, un repérage de films, et du coup, ils sont quand même plutôt ouverts à cette proposition. Donc c'est rassurant de se dire que les exploitants gardent une curiosité et une envie de montrer des films en dehors des propositions bien calibrées de l'industrie du cinéma. Voilà.
Bien sûr,
c'est rassurant. Oui.
Bien sûr, on fait aussi. Découvrir des grands cinéastes qui ont beaucoup de talent. L'an dernier, en 2015, on a invité Michel Khalifi, qui est une grande figure du cinéma palestinien. Et je pense que le public à la Cinémathèque, ainsi que les responsables, lui ont réservé un accueil fort sympathique. C'est un grand monsieur qui a beaucoup de choses à dire sur le cinéma. Et ça sera le cas cette année avec Yam Abbas aussi, une grande actrice qui a tourné aussi bien avec des cinéastes palestiniens que français. Elle a tourné aussi avec Jim Jarmusch et d'autres. Donc, une grande figure. Elle était à Berlin. Hier, elle était sur France Culture. Je l'ai écoutée. Et ça va être un moment très fort.
Ouais. Et vendredi prochain, elle sera à la Cinémathèque. Donc juste avant, on peut rappeler que le mercredi 22, vous présentez un film qui a peut-être le plus beau, le plus chouette titre de la sélection. C'est Amour, Larcin et autres complications. Un film de Mouahad Alayem. Donc ça se passe à la maison de quartier de Bagatelle. Vous allez nous faire découvrir un lieu de projection, finalement. Le lendemain, donc, on est à l'American Cosmograph pour The Curve, un film de Rifki Asaf, égyptien, français, jordanien, une sorte de trio comme ça, de producteurs derrière ce film. Et donc, il y a un des comédiens qui sera présent. Il a confirmé qu'il sera bien là.
Oui, oui, il sera là. Oui. Il est tout content aussi.
C'est vrai. Mazem Moadam. Et donc, on arrive au vendredi 24 et samedi 25, puisque Yam Abbas reste deux jours à Toulouse. Enfin, en tout cas, vient... donne deux rendez-vous publics à Toulouse le vendredi. Alors, vous m'avez donné une info comme ça, c'est que dans le cadre des courts-métrages programmés à la à l'ESSAV, dès 14h le vendredi, on pourra voir un court-métrage dans lequel joue Yam Abbas qui s'appelle Cliché. Mm-hmm. Et ce sera à 14h, à partir de 14h. Puis à 19h le vendredi 24 à la Cinémathèque, il y a une rencontre avec Yam Abbas. Mmh. Tout le monde peut participer, il suffit juste d'aller
de
chercher
réserver,
ses
oui.
places, voilà, mmh. à la Cinémathèque. Puis un premier film qui est Le Pain, un film de Yam Abbas, d'un court-métrage de 18 minutes. Et enfin, son premier long-métrage, Héritage, qu'elle a réalisé en 2012. Et donc, Yam Abbas va venir donc présenter ses films. Elle sera là, elle pourra répondre à toutes les questions du public. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire. Alors, elle croise à peu près presque toutes vos thématiques. Mm-hmm. D'abord, c'est une réalisatrice, c'est aussi une actrice. Enfin, d'abord une actrice, une réalisatrice. Qui connaît bien entendu la situation de l'exil, enfin qui parle un petit peu de tout ça. Alors je vous propose d'écouter Yam Abbas au sujet des questions d'être une femme réalisatrice, d'être une femme en Palestine. On l'écoute tout de suite.
Vous, Yam Abbas, vous rentrez de Ramallah. On sait que les femmes palestiniennes jouent un rôle très fort dans la résistance.
Écoutez,
par rapport
oui.
à l'occupation, par exemple, israélienne, est-ce que la femme palestinienne, elle se distingue de par ce combat de ses consœurs méditerranéennes, voire occidentales ?
Je crois parce qu'on est tellement dans un conflit actuel que la femme, elle a pris une place à cause du manque de l'homme. Parce que l'homme se fait arrêter, l'homme est en prison, l'homme se fait tirer dessus par les soldats israéliens et du coup mort. Et du coup, la femme, elle prenait cette place importante aussi dans le combat actuel et à travers aussi la première intifada, deuxième intifada en Palestine. Bizarrement, j'entends Rachid parler, j'entends Latifa parler. Moi, je rentre vraiment de Ramallah. Mmh. On a essayé de créer une petite troupe de théâtre et on n'a pas eu une seule fille. Donc, je joue la seule fille parmi 14 hommes. Qui sont de jeune âge, et ça a été très difficile. Après, on se dit, quelle est l'importance ? Est-ce que c'est juste aller tirer la femme de chez elle, la jeune fille de chez elle, et l'introduire dans un truc où elle va souffrir par la suite, ou est-ce qu'il faut laisser aussi le temps agir, parce que...
Pour Antigone, qui s'est joué à Ramallah et aussi en France, il y avait une jeune comédienne qui est venue dans Maghreb Orient Express.
Ouais, oui, ouais. Alors il y a des femmes comédiennes, absolument, en Palestine, mais c'est vrai que c'est très rare. Il y en a plus à l'intérieur d'Israël, donc des Palestiniens d'Israël, où c'est plus ouvert, ça devient plus présent. Mais en Cisjordanie et dans les villages et dans les camps, parce que moi j'étais dans un camp de réfugiés, c'est beaucoup plus difficile.
Plus
donc l'idée, c'est vraiment de retourner et gagner cette confiance. Il a fallu qu'on se montre une première fois dans cette pièce pour que les gens fassent cette confiance et nous donner cette confiance de pouvoir faire quelque chose où on peut raconter des histoires qui ne sont pas féminins ou masculins, mais qu'on peut raconter nos histoires, nos émotions, partager ça avec le monde entier et tout doucement permettre à des femmes d'exister. Mais voilà, il faut du temps, il faut du temps, il faut croire, il faut retourner, il faut y aller, il faut continuer.
Il faut persévérer.
Ouais. Vous savez, vous pouvez être chez vous et être exilé à la fois. Donc, pour moi, j'ai jamais considéré l'exil comme un sujet, c'est un état. C'est un état, c'est un... Voilà, c'est... On y est ou on n'y est pas. Et donc, à partir de là, on a envie de parler de ça ou on n'a pas envie de parler de ça. Et parce... Mais quand on y est, ça devient une nécessité d'en parler. Moi, étant née en Israël d'une famille palestinienne, j'ai déjà grandi avec une double nationalité et j'avais l'impression toujours que l'une chassait l'autre pour exister. L'identité, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est presque en fait la recherche plus de chez soi qui devient un peu l'identité que je cherche. Donc dans tout ça, si on veut être philosophique, est-ce qu'il y a de l'exil ou pas ? Je ne sais pas. Mais donc le mot lui-même, pour moi, c'est quelque chose qui rétrécit la pensée et diminue le sens de l'exil et diminue le sens du voyage, finalement. Alors, par choix, on en choix. Encore une fois, chacun son histoire. Et donc, dans ce sens-là, l'exil m'intéresse, en fait. Dans ce sens-là, je trouve que l'exil est quelque chose qui peut, aujourd'hui, au cinéma, être un sujet magnifique, parce que ça permet de voyager, ça permet de rêver, ça permet de parler, ça permet de repartir dans le passé, ça permet de se projeter vers un avenir. Ça me permet beaucoup de questions, quoi. Ça permet beaucoup d'interrogations et beaucoup de rencontres entre ces gens qui s'interrogent.
Alors voilà, j'ai rassemblé j'ai croisé deux interviews de Yam Abbas, l'une où elle parlait de ce travail qu'elle mène auprès de jeunes femmes pour leur transmettre cette passion qu'elle a du théâtre, elle qui a commencé très jeune le théâtre. Et puis ensuite cette question de l'exil, ce rapport au pays, à l'identité. Je pense que la discussion avec Yam Abbas promet d'être riche. Elle a accepté facilement votre invitation.
Elle a accepté facilement. Le problème, c'était en disant je veux bien venir. Mais si j'ai un tournage, donc c'était vraiment croiser les doigts.
Ouais. Pour que rien ne se
passe. Et donc, même il y a deux semaines, on n'était pas sûr. Et là, on l'a contacté en disant je viendrai.
Ouais. Donc
et
elle
on était tout contents. Ouais. Et on l'attend.
Ouais. Voilà. Je vous propose, bien juste pour terminer autour de Yam Abbas, d'écouter la bande-annonce d'Héritage, qui est donc son film qui sera projeté à la Cinémathèque à 21h le 24 février. On écoute Héritage.
Nothing around here is easy.
I know.
Maybe it's time they knew about us.
Maybe. أنا بحب واحد.
من أي عائلة؟
إلين. من إنجلترا.
أنت أعطيتها حرية أكثر من اللازم.
سميه محمود. تخليك بهار.
لازم تربيها قبل ما تخرب سمعتنا كلنا. أما وحدك هشري.
Wait till we leave this place.
لا متأسفي من وقت الحروب بهالبلاد بتأثر علينا.
أنا مستغرب على مصاب شلو كريتي. خلف شلو خلاش.
أنت السبب اللي صابه. أنت سمي العيلة هاي.
أنا أحد عيلة كن الله يوفقك الحين.
شو خص الله؟ ريتو يغير علي كل متخلفي.
فكريش إنه راح أخليك توتر راس العيلة. أنا بقتلك بإيدي.
مع الكلمة.
لازم تختاري.
Fine, stick with them. Marry your cousin and live with your family forever. You're the sick one thinking I don't see what's going on.
Where do you get your positive attitude from?
From your fucked up country.
Voilà l'histoire d'une jeune Palestinienne qui tombe amoureuse d'un étranger, d'un Anglais. et la famille ne va pas le voir de si bon œil. Alors ça c'est donc le vendredi, et le lendemain Yamabas présente un film dans lequel donc elle joue, qui vous en avez parlé tout à l'heure, c'est La Porte du Soleil. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de ce film? Pourquoi avoir choisi ce film? C'est elle qui l'a choisi, c'est vous, c'est la Cinémathèque, ou c'est tout le monde?
C'est nous. Oui. Et elle a validé notre choix. Oui. Pourquoi on l'a choisi? Parce que dans notre philosophie de Ciné-Palestine, on aimerait toujours avoir un regard vers le passé et on revient vers le présent. Mm-hmm. Donc La Porte du Soleil, qui est inspirée du roman de Yasruri, c'est l'histoire de l'Exode. C'est considéré, ce roman, comme le meilleur roman sur l'Exode palestinien en 1948. Donc c'est retour un petit peu aux mémoires des Palestiniens pour raconter l'histoire des Palestiniens. Donc il y a toujours un retour vers le passé. Et sur notre site, notre président d'honneur, Guy Chapier, est retourné vers un autre film qu'on aimerait projeter et qu'on a des difficultés pour des raisons techniques, qui s'appelle Les Dupes, des films qui se passaient dans les années 70 et qui racontent aussi le drame de l'exil et le drame de l'immigration. L'histoire, c'est écrit par, inspiré d'un roman de Hassan Kanafani qui a été assassiné dans les années 70. Donc, de trois Palestiniens qui sont en Irak, qui cherchent le paradis, entre guillemets, qui cherchent à gagner leur vie et pensent aller au Koweït. Et là, c'est un passeur. On est dans la même histoire aujourd'hui. Va leur proposer de monter dans son camion. Il traverse les frontières. Il fait 40 degrés. Ils vont mourir dans le camion avant d'atteindre leur objectif. Notre manière d'aborder le cinéma palestinien, on aimerait voir le cinéma d'hier et le cinéma d'aujourd'hui. Le cinéma qui nous raconte l'histoire des Palestiniens et le cinéma qui raconte ce qui se passe exactement aujourd'hui en 2017. Donc d'où La Porte du Soleil.
Mmh. Et d'où ce partenariat avec la Cinémathèque qui permet donc de passer ces films plus anciens.
Voilà.
Ça a du sens, ouais, bien entendu. Et juste, on va terminer un petit peu comme ça avec les deux derniers rendez-vous qui sont le 27 et le 28. Je parle pour Toulouse, puisqu'après, c'est en région que ça se passe. Et le lundi 27, vous présentez un film en avant-première, Personal Affair, de ma Hatch. Vous m'avez dit qu'elle ne pourra pas venir.
Si, elle sera là avec le producteur.
C'est moi qui vous le dis.
Elle sera là avec son producteur. Oui.
Ouais. Ça se passe au Cratère à 20h30. Et puis mardi à l'Essave, vous présentez aussi en avant-première un documentaire, Un été long et chaud, de Norma Marcos, qui a déjà été invitée
en 2014, voilà, en 2014, et ça va être une avant-première, oui, parce que le film n'a pas été encore distribué en France. Et il est précédé, j'aimerais, si vous m'accordez 30 secondes, parler d'un autre film qui sera présenté le mardi 28 à l'Essave. Nous ne pouvons pas y aller maintenant, mon ami. C'est un documentaire de Carole Mansour. Parce que ce qu'on aimait aussi dans le ciné Palestine, c'est avoir un regard sur la réalité tragique aujourd'hui. Ce film parle des Palestiniens de Syrie qui ont quitté le camp Yarmouk pour atterrir au Liban. Donc c'est un deuxième exil et c'est une deuxième tragédie pour eux, parce que lorsqu'ils ont quitté la Palestine pour atterrir dans le camp Yarmouk, ils ont reconstitué au moins sur le plan symbolique leur Palestine, ses rues, les ambiances des villages, etc. Et ils ont vécu, il y a trois générations qui ont vécu donc en Syrie. Et là, avec les événements, avec la tragédie syrienne, ils étaient obligés de partir au Liban. Donc, Carole est allée les voir, elle les a filmés. En 2016, lorsqu'on a invité donc Axel pour le film Les Chebabs de Yarmouk, et qu'on a présenté aussi un autre film, Lettres de Yarmouk. Donc on aimerait aussi que ce cinéma reste à proximité par rapport à une réalité tragique. Donc d'où le film Nous ne pouvons pas y aller maintenant, mon ami.
Et elle sera présente à Toulouse pour présenter son film? Non.
Malheureusement, non. Carole Mansour ne sera pas là. Bon. Par contre, en revanche, Norma Marcos sera là.
Oui, d'accord. Et une dernière avant-première à l'American Cosmographe, Je danserai si je veux. Alors, ce film, lui, il est présenté aussi mardi 28, où je...
Voilà. Je danserai si je veux, Cosmographe.
Ouais, la réalisatrice sera présente.
On n'a pas...
Vous attendez.
Son emploi de temps est chargé.
Ce sera la surprise.
Voilà, sera peut-être la surprise. En tout cas, c'est un film qu'on a bien aimé, un film très dynamique. C'est l'histoire de trois jeunes filles. Le titre dit tout, je danserai si je veux. Donc ça, il y a une volonté d'émancipation. Les trois filles sont en colocation. Et puis il y a une qui suit les percées de la religion, les autres pas. Comment elles vont cohabiter ensemble? Je ne vais pas raconter l'histoire. Mais en tout cas, ce film nous a scotché par son aspect dynamique, par rapport au sujet qui est abordé, par aussi un regard vers critique par rapport à la société palestinienne, parce que les Palestiniens savent parler d'eux-mêmes aussi. Et ça aussi n'est pas s'enfermer dans le cadre de ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien.
Oui, oui. Et c'est tout l'intérêt aussi d'avoir ces regards de jeunes réalisateurs sur la jeunesse palestinienne qui est donc la relève. C'est bien eux qui vont faire la Palestine.
C'est son premier film.
Oui.
Premier long métrage. Long métrage, pardon.
Oui. Et ensuite, vous pouvez me raconter un petit peu, c'est ce Ciné-Palestine qui va encore avoir une seconde vie en région avec pas mal de salles partenaires. Ramonville, Aucamville, Bressol, Figeac, Auziel et Muret. Voilà. Alors, qui accueillent des films dans leur salle, parfois deux, avec discussions, rencontres, débats. Le festival, finalement, qui va durer encore jusqu'au 1er mars, qui s'arrête pas là. Et donc, j'invite aussi les auditeurs à se déplacer, à aller à la rencontre de ces films dans ces salles. 3000 nuits a été plébiscité par ces salles où vous avez fait c'est vous qui leur avez fait la proposition, elles ont choisi.
On a bien aimé 3000 nuits, mais je dois avouer que les salles aussi avaient envie de projeter ce film. Oui. Et comme ce film est passé à Toulouse, l'ambition initiale, c'était de présenter ce film à l'avant-première, mais il est sorti avant. Donc oui. Il est sorti le 4 janvier. Il est passé à Toulouse, donc je pense que le public toulousain a pu le voir. Il est passé aussi au Cratère, passé à Utopia et Cosmographe. Donc, on se dit, et comme les salles autour de Toulouse, on dit, 3000 nuits, non, on l'a pas vu. Donc, on a répondu à leur attente. Et comme c'est un grand film qu'on a aimé, donc on se dit, OK.
Oui, allons-y. Et du coup, ça permet aux salles de faire de la périphérie, de la couronne, de faire aussi événement autour de ce cinéma palestinien avec un film que leurs spectateurs attendent. Donc effectivement, on comprend ce choix de 3000 nuits. On peut rappeler un petit peu, vous l'avez évoqué, c'est une jeune femme qui va se retrouver en prison, dans une prison israélienne avec des prisonnières de droit commun. Elle est accusée de terrorisme. En fait, elle a pris en stop quelqu'un qui va commettre ensuite un acte terroriste. Elle-même est juste là-dedans par hasard, on pourrait dire, en quelque sorte. Et ce film raconte... ça fait donc 3000 nuits, 8 ans passées en prison.
Oui.
Avec aussi un film elle a réussi à obtenir l'autorisation pour retourner dans une ancienne prison, pour se mettre aussi dans un contexte comme ça d'oppression fort. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce film que moi je n'ai pas vu encore? Donc c'est pour ça que je vous laisse quand même beaucoup parler des films, vous avez remarqué.
Alors, 3000 nuits nous a touché beaucoup. Alors peut-être il y a un détail, mais qui n'est pas vraiment un détail, quelque chose de tragique. Donc elle attend un bébé, et ce bébé va naître en prison. Et malheureusement, ce fait tragique correspond à la réalité dans beaucoup de pays. J'ai lu des poèmes qui parlent d'un bébé qui est né en prison en Syrie. Et l'histoire qui m'a beaucoup touché, parce que dans l'histoire, il y a donc un soldat qui vient de voir un intellectuel en disant « il y a une mère à côté avec son enfant, tu vas lui raconter des histoires ». Et il va tenter de lui raconter l'histoire en disant « Est-ce que je vais te dessiner un arbre ?» Et l'enfant dit « Un arbre, c'est quoi un arbre ?» Il n'a jamais vu un arbre. « Je vais te dessiner un oiseau, mais je n'ai jamais vu. » Donc là, elle attend un bébé. Elle est, et ce bébé, finalement, va être un petit peu ce point joyeux dans le film, parce que les prisonnières vont être touchées par cette naissance qui se fait en prison. Donc, elle est prisonnière, elle a l'hostilité des prisonnières de droit commun israélien, mais petit à petit, il se développe aussi une solidarité avec une prisonnière israélienne, mais elle a aussi l'hostilité des prisonnières palestiniennes, pour en danse politique, donc des contradictions. Ce film a réussi à développer les nuances dans les rapports humains, parce que si la directrice de la prison est quelqu'un de sévère, de dur, etc., il y a quand même une avocate israélienne qui va défendre les prisonnières. Tout ça dans le contexte difficile des années 80, et tout ça mené aussi avec une direction de la photographie qui est remarquable. Donc elle ne pouvait pas tourner dans la prison où l'histoire s'est déroulée, l'histoire vraie, l'histoire des femmes. Ça a été tourné en Jordanie, dans une autre prison, et qui a été préparé pour ça. Donc c'est un film touchant, remarquable, un film très juste.
Mais merci de cette, de cette présentation. Et moi, j'avoue que quand j'ai commencé à me pencher sur ce programme, à regarder un petit peu ces films et à chercher des informations dessus, effectivement, c'est pas facile d'obtenir des informations sur les films, même de voir des bandes annonces. Pour certains, il n'y a rien qui existe. Et donc, je voulais vous féliciter pour ce travail-là de découverte, enfin de défricheur, de nous faire parvenir ces œuvres. Un film, s'il n'est pas vu, c'est une perte pour tout le monde, pour celui qui le fait et pour celui qui ne le voit pas, bien entendu. Bien entendu, on va vous laisser passer cette édition, mais quels sont vos projets pour la suite? Il y aura certainement une quatrième édition de Ciné Palestine.
On aimerait continuer, oui. On aimerait continuer. On aimerait avoir quatrième et cinquième, etc. Bon, parfois, on se décourage parce qu'on a des moyens très modestes. On fait donc avec ces moyens. Ça prend un investissement très, très, très lourd. Mais finalement, à chaque fois, on dit c'est super parce qu'il y a aussi les rencontres avec ces cinéastes, les grands et les petits, ceux qui viennent de Palestine, qui sont encore étudiants. Donc, il y a des moments très forts, très, très forts. Et tout ça nous et puis il y a le public toulousain qui accueille donc cet événement, le public qui est là, et tout ça nous dit, malgré la fatigue, malgré l'épuisement, on ne peut pas baisser les bras, il faut continuer, parce que comme dans la bande annonce que vous avez fait pour le chanteur de Gaza, c'était un arabe, et quelqu'un dit, ce chanteur, ou peut-être le chanteur lui-même qui dit, il faut qu'on puisse entendre notre voix. Voilà, et donc je dois chanter, je dois sortir de Gaza, je dois aller en Égypte, et des films palestiniens doivent sortir de Palestine, doivent diffuser pour qu'on entende les Palestiniens, pour qu'on entende leur chant, pour qu'on entende aussi leur désir de paix, et ça c'est fondamental, leur désir d'ouverture aussi, c'est ce qu'on aimerait souligner, voilà.
Merci beaucoup.
Alors je voudrais, si vous me permettez, ça va prendre juste 30 secondes.
Bien sûr, on a le temps à Canal Sud, vous allez pouvoir nous donner toutes les informations pratiques déjà. Oui, d'accord. Je vous laisse.
Je voudrais insister sur le fait que notre choix aussi, c'est d'aménager, de prévoir des séances de projection en entrée libre. Donc c'est le cas, évidemment, l'espace diversité et laïcité. C'est le cas, donc... à l'ESAV, c'est le cas aussi à la maison de quartier de Bagatelle. Nous sommes conscients qu'à Toulouse, il y a des étudiants, des chômeurs, etc. Il y a des gens qui ont des moyens modestes. Et ces gens-là ont le droit, et c'est notre devoir aussi, de leur offrir des séances de projection gracieusement. Donc ça, c'est important. Je voudrais aussi dire qu'on peut avoir les détails du programme sur le site, sur notre site, cinépalestine.free.fr. Donc n'hésitez pas à visiter le site pour voir les détails aussi sur les films et sur les réalisateurs.
Merci beaucoup, Samir Arabi.